Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Cagnani.
C'est encore une fois avec un réel plaisir que je vous retrouve sur la radio Inzamba à Gateka Kawe. C'est le moment du journal de ce samedi 29 juin 2024. Tout d'abord les titres. Les propos du ministre de l'énergie sont la preuve d'une mauvaise planification. Selon le LICOM, l'argument d'Ibrahim Ouizeye que c'est le nombre important de véhicules bondis qui est la cause de la pénurie de carburant n'est pas fondé. Pour être évalués, les enseignants des communes Makamba et Kayogolo doivent chacun débourser entre 4 et 14 000 francs burundais pour l'achat du matériel relatif. Ils s'insurgent contre cette décision et demandent à l'État de prendre en charge cette dépense. Le ACR a le devoir de protéger les réfugiés et doit secourir deux femmes enlevées mardi au camp de Nduta en Tanzanie. Une remarque du mouvement Inamahoro qui appelle l'agence onusienne à demander des comptes aux autorités tanzaniennes sur ce sujet. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
La pénurie de carburant qui se remarque aujourd'hui est due au nombre trop élevé de véhicules dans le pays. C'est l'explication fournie ce vendredi en province Makamba par le ministre de l'Énergie lors de l'émission publique animée par les membres du gouvernement burundais. Ainsi, le ministre Ibrahim Ouizeye affirme que le carburant est disponible sauf que la demande est trop élevée. On l'écoute.
La population doit savoir que la pénurie de carburant ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'an 2019 et les années postérieures, la pénurie se remarquait comme c'est le cas aujourd'hui. Pour se procurer de ce produit, on doit avoir de l'argent en devise. Nous devrions aussi savoir que nous avons subi des sanctions économiques, ce qui a affecté le budget général de l'État. Une autre chose, depuis l'an 2022 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de véhicules a sensiblement augmenté et les outils qui s'approvisionnent en carburant se sont multipliés. Pourtant, les exportations pour avoir les devises n'ont pas augmenté. Le carburant est disponible, sauf que la demande est trop élevée. La Sopebu est à l'œuvre pour que la population soit servie.
Du côté de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les manifestations économiques, l'on condamne les propos du ministre de l'Énergie sur la question de pénurie de carburant. Le LICOM estime que c'est un langage déplacé pour un ministre censé apporter une réponse claire à la situation alarmante. Jean Douimana, porte-parole de l'ELICOM, explique que cela traduit une mauvaise gestion autant qu'une piètre planification du ministère. Il demande plutôt au ministre de cesser ce langage ironique envers les Burundais. Écoutez.
Personne n'ignore que la question carburant dans notre pays est une question qui est devenue une monnaie courante à cause de la mauvaise gestion des avoirs de l'État. Et le LICOM a maintes qui a eu haut et fort pour que la chose publique soit respectée pour que le patrimoine de l'État soit géré en père de famille. Mais malheureusement, on a gardé l'œil fermé. Au lieu de trouver la solution de la question posée liée au manque de produits pétroliers dans notre pays, les autorités se précipitent à répondre en disant que ce sont les véhicules qui sont devenus nombreux. Alors que l'augmentation des véhicules, ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème. Plutôt la diminution des véhicules dans un pays est un problème. Un pays développé caractérisé par des moyens de transport en suffisance. Et si les véhicules sont devenus plus nombreux, et si la population burundaise est devenue plus nombreuse, ça c'est un signe du développement. Et plutôt c'est un problème de planification économique qui hante son pays. Il faut que cette autorité du ministère ayant les énergies émises dans ces entreprises, il faut que plutôt apprennent comment planifier suivant l'augmentation d'ici quelques années déjà. Non, ça c'est vraiment un discours vraiment d'une autorité sans projet, sans planification.
C'était Jean Douimana, porte-parole de l'EDICOM. Un tour au sud du pays où la grogne est grande au sein des enseignants des communes Makamba et Kayogoro, c'est dans la province Makamba, ils s'insurgent contre la décision des directeurs d'école de leur exiger de l'argent pour l'achat du matériel pour l'évaluation de leur performance. Selon eux, cet argent devrait être payé par le gouvernement qui les a engagés. Les détails avec Joséphine Jones-Ondimana.
Ces enseignants, surtout ceux des directions communales de Makamba et Kayogoro, protestent contre la collecte d'une somme allant de 4 000 francs burundais à 14 000 pour l'achat des papiers, l'impression et les photocopies dans le cadre d'une nouvelle politique de cotisation des employeurs du gouvernement nommée « achat des performances ». Ces enseignants, surtout ceux de la direction communale de Kayogoro, disent être intimidés par leur directeur chaque fois qu'ils demandent la raison qui les pousse à collecter cet argent, alors qu'il devrait être soutenu par le gouvernement via les frais de fonctionnement donnés aux écoles. Certains directeurs menacent même les enseignants qui osent poser cette question d'insubordination. Les directeurs d'école contactés à ce sujet expliquent qu'ils sont obligés de demander cet argent car le gouvernement n'a pas prévu ces frais dans les frais de fonctionnement. Ces enseignants estiment que c'est du vol qualifié et demandent au gouvernement de suivre de près cette affaire. Les directions communales de l'éducation dans les deux communes de Makamba et Kayogoro, tout comme la direction provinciale de l'éducation à Makamba, n'ont pas voulu réagir sur ce dossier.
Merci Joséphine Jones-Ondimana. Et puis le ACR devrait sortir de son silence et demander aux autorités tanzaniennes de dire où ont été emmenées deux femmes burundaises récemment enlevées par des policiers au camp de Nduta. C'est un appel du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Marie-Louise Valichako, présidente de ce mouvement, se dit étonnée que ces femmes soient victimes de ce que leurs maris sont soupçonnés d'avoir fait. Elle rappelle que le crime incombe uniquement à celui qui l'a commis. Suivez Marie-Louise Valichako.
Ces informations sont très préoccupantes et suscitent beaucoup d'interrogations. Premièrement, des Burundais qui sont accusés d'être dans le groupe rebelle Red Tabara seraient-ils poursuivis par la justice tanzanienne ou burundaise? Pourquoi cette arrestation par la police tanzanienne? Pourquoi ce manque de clarté dans cette affaire? Deuxièmement, comme normalement les réfugiés sont protégés par les pays d'accueil, comment est-ce possible que ceux qui s'appellent policiers de la Tanzanie arrêtent des réfugiés qui sont au camp alors qu'il y a des personnes en charge de ce camp et elles ne sont informées de rien et elles ne disent rien? Une autre question qui pose aussi des points d'ombre dans cette situation. Depuis quand est-ce que les responsabilités conjugales impliquent aussi la responsabilité pénale pour un crime commis par le conjoint? À notre connaissance, en droit, la responsabilité pénale incombe toujours à l'auteur du crime. Il y a donc dans cette situation beaucoup de points d'ombre et de cacophonie certainement voulues pour que personne ne sache comment orienter la recherche. Cependant, la vérité sur la situation de ces femmes est entre les mains du gouvernement tanzanien et c'est au HCR de le demander vu que c'est cette organisation qui est en charge des réfugiés avec la responsabilité de les secourir, de les appuyer et de les protéger. Comment les Burundais pourraient-ils être entre les mains de cette organisation qui les a accueillis, inscrits et acceptés pour dire un autre jour qu'ils ont disparu? Et ni le pays d'accueil ni le HCR ne disent rien sur la question. Nous lançons un appel au HCR afin qu'ils demandent à la Tanzanie, où sont ces femmes? Que cette organisation dite humanitaire pense à la douleur que vivent les familles de ces femmes et la torpeur que vivent les autres réfugiés dans ce camp pour les secourir tous. Que le HCR sorte de son silence pour rassurer les familles et les autres réfugiés et qu'il fasse tout son possible pour que la vérité soit éclairée. Tous nos encouragements à ces familles et à ces autres réfugiés qui ne ferment plus les yeux de peur de se retrouver enlevés.
Inzamba.
Pour la suite de cette édition, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui se penche sur la récente décision du ministère de l'Éducation de retirer le français et l'anglais des épreuves de l'examen d'État pour l'édition 2024 pour la section mathématiques statistiques. Au cœur de la société vous est présenté par mon fils Niongele.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idjouya Onyagihougou ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le français et l'anglais ne feront pas objet d'épreuves à l'examen d'État édition 2024 pour la section mathématiques statistiques. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Cette décision découle de la réforme du système éducatif burundais à travers l'école fondamentale. Cette décision aura-t-elle des conséquences sur la vie des futurs étudiants? Si oui, que faut-il faire pour s'assurer que les élèves ont un bagage consistant à la fin de leurs études supérieures? Toutes ces questions trouveront des réponses à travers son mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 29 juin 2024, présenté par Bonfils Niongere. Dans une correspondance adressée au directeur provincial de l'éducation signée 19 juin 2024, le ministre de l'Éducation nationale de la recherche scientifique François Javier Mana s'appuie sur l'ordonnance ministérielle du 24 janvier 2024 portant fixation des épreuves faisant objet de l'examen d'État dans les écoles de l'enseignement post-fondamental, général et pédagogique et annonce que le français et l'anglais ne seront pas objet d'épreuves à l'examen d'État édition 2024 pour la section mathématiques et statistiques. Il ajoute que ces cours seront par contre concernés par les éditions ultérieures et cela dans toutes les sections. Le choix du ministre de l'Éducation nationale de retirer le français et l'anglais, deux langues de communication de l'examen d'État pour les sections mathématiques et statistiques, est contraire à ce qui se fait dans d'autres pays. Ce constat est fait par l'expert en éducation et professeur d'université Libéra Ntibashira Kandi. Selon lui, la maîtrise des langues est un préalable pour étudier et communiquer. Il estime qu'il est urgent de refonder le système éducatif burundais.
La réforme école fondamentale et post-fondamentale ont été décriées. Aujourd'hui, le constat est amer. C'est un fiasco total d'après le rapport d'évaluation d'un cabinet burkinabé. Cette réforme a des conséquences dramatiques, notamment la non-maîtrise de la langue française, qui est la langue d'enseignement. Et bien sûr de travail. Au lieu de renforcer l'apprentissage et la maîtrise de deux langues de communication, français et anglais, le choix du Burundi est le contraire de ce qui se fait dans les autres pays. La maîtrise des langues est un préalable pour être capable de mieux communiquer, engager des débats et des échanges. L'on sait très bien aujourd'hui la place qu'occupe la communication dans la vie quotidienne d'une personne. Rien donc d'étonnant que les étudiants dans l'enseignement supérieur universitaire au Burundi ne comprennent pas et ne maîtrisent pas le français et ont du mal à suivre des cours et souvent demandent des explications en kirundi aux enseignants. Il y a donc urgence de refonder complètement le système éducatif burundais et y mettre de l'ordre, la révision et la refonte complète du curricula et réformer complètement le système éducatif burundais.
Même son de cloche chez les syndicalistes du CONAPES et le syndicat général du personnel enseignant de l'éducation du Burundi, CGPBO. Dans un entretien qu'ils ont accordé au journal Iwachu, tous conviennent que le français est une langue d'enseignement, plus il n'est pas maîtrisé comme l'anglais par les apprenants, il restera difficile d'assimiler la matière dans ces langues. Et cela sera encore plus problématique dans le contexte d'intégration régionale du Burundi. Ce syndicat demande au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de donner une valeur à la langue française et à l'anglais plutôt que de les négliger. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Niongere. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Bonfils Niongere. Merci autant qu'à toute l'équipe qui a participé à la production en synergie de cette édition. Et voici pour la fin la revue de presse hebdomadaire. C'est avec vous, Edith Claude Nina Atsui.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Parlons justice pour commencer. C'était revue de presse où le journal SOS Média écrit que le second degré de la Cour suprême a maintenu la peine de prison à vie contre l'ancien Premier ministre burundais Alain Guillaume Unyoni. Le président de la Cour suprême, Emmanuel Gatelete, a annoncé cette décision ce jeudi dans une audience publique à la prison centrale de Gitega où Alain Guillaume Unyoni est détenu depuis juillet 2023. L'ancien Robert du mouvement CNDD-FDD devra donner une amende de plus de 22 milliards francs burundais et tous ses biens qui n'ont pas été déclarés au 3 juin 2021 seront confisqués pour cause d'utilité publique. Lisons dans ce journal SOS Média que les trois co-accusés dont M. Unyoni, à savoir l'ancien commandant de la police anti-émeute, le colonel de police Désiré Ouamahoro, l'ancien cadre du CNL, Service National des Renseignements, Samuel Destineur Pumukeko et l'ex-ingénieur de Unyoni, Komenio Saba, ont également vu leur peine de 15 ans d'emprisonnement reconduite par le juge. Et dans la suite de cette revue de presse, après l'attaque par deux jets de pierre intervenue en début de cette semaine contre le siège du journal Ouachou, la direction de ce journal se demande pourquoi le Conseil national de la communication, dont la mission principale est de garantir l'indépendance, notamment en matière d'information des médias publics et privés, resté dans un silence assourdissant au moment où il fallait élever la voix, n'offusque que pour s'indigner suite à un tel incident qui s'ajoute à d'autres. Pourtant, cet organe de régulation des médias dit toujours engagé à militer pour une presse libre, professionnelle et responsable. Le journal Ouachou s'interroge aussi sur les vrais commanditaires de l'attaque contre son siège par des jets de pierre. À qui profite cette tentative d'intimidation? Il se demande aussi pourquoi, après le constat, la police n'a pas eu le réflexe de laisser quelques éléments sur la place pour attendre le lever du jour. Le journal constate que c'est une enquête a priori facile à mener, mais qu'on risque de lui dire que les enquêtes continuent une formule consacrée au Burundi, selon le journal Iwachu. Dans cette colonne également, le journal Iwachu écrit sur la date du 26 juin qui marque la journée internationale dédiée à la lutte contre la torture, les traitements inhumains ou dégradants. Il note que le Burundi a ratifié la Convention contre la torture le 18 février 1993 et que malgré les textes nationaux et internationaux, la torture reste une réalité préoccupante dans le pays. Les rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International mettent également en lumière des abus persistants. En effet, en janvier 2023, Human Rights Watch a documenté des exécutions extrajudiciaires, des tortures et des disparitions forcées. Les victimes sont souvent des opposants politiques ou des personnes soupçonnées de collaborer avec des groupes armés. Amnesty International, dans son rapport de 2023, souligne également les disparitions forcées et les exécutions sommaires. Les corps des victimes sont souvent retrouvés dans des cours d'eau ou des zones de brousse, enterrés à la hâte sans identification ni enquête. En plus des rapports de ces organisations internationales, l'association locale de lutte contre le chômage et la torture à Luchoto dénonce aussi plusieurs cas emblématiques. Dans une conférence de presse organisée dans le cadre de cette journée, le coordinateur d'Aluchoto, Vianney Ndayisaba, a dénoncé, entre autres, les conditions de détention dans les prisons burundaises qui deviennent alarmante et que la surpopulation dans ces maisons de détention entraîne parfois des conditions de vie déplorables. Face à ces cas de violation, Ali Choto demande à l'État burundais d'éradiquer l'impunité et de punir les auteurs de ces actes conformément à la loi. Pour clore cette revue de presse, le journal Burundi Echo se pose la question de savoir quand la mise en place d'une loi sanctionnant les infractions des médecins. Ce journal constate qu'il y a des patients qui manquent cruellement de soins urgents à l'hôpital, d'autres qui prennent des médicaments inappropriés ou encore qui sont maltraités. Cela peut entraîner des décès ou handicaps suite aux négligences médicales, d'où une réglementation s'avère nécessaire pour faire face à ces problèmes. Le journal souligne que ces mêmes préoccupations ont été soulevées par les sénateurs le 18 juin 2024 lors de la séance des questions orales à la ministre de la Santé, Lidwine Varadahana. Les sénateurs avaient indiqué qu'il y a souvent des cas de négligence médicale où un patient peut décéder à cause d'un mauvais traitement et que les failles du genre devraient impérativement être réglées par une réglementation appropriée. Et voilà, c'est ce dossier en rapport avec la santé que nous mettons en terme à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez avec Eddie-Claude Ninazwe. Au revoir et à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Eddie-Claude Ninazwe. Ainsi s'achève cette édition. Merci à la rédaction de la radio Indamba pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.